Chapitre 11. La petite fille de MacArthur Park. Les amis sont les anges qui nous soulèvent lorsque nos ailes n'arrivent plus à se rappeler comment voler. Anonyme. Tu as échappé de peu au bulldozer, assura Milou en débarquant dans le salon. Oula, ça ne va pas mieux, toi. Tu as la tête du type qui vient de sniffer du bicarbonate. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venu récupérer ma voiture, si ça ne te gêne pas trop. Que je puisse faire un dernier tour avant de la laisser aux huissiers. Malibu Colony, 10h du matin.
Bonjour Tom, dit Carole en entrant à son tour dans le salon. Elle portait son uniforme de service.
Je jetai un coup d'œil dans la rue et remarquai qu'une voiture de police était garée devant chez moi.
Tu viens pour m'arrêter ? Plaisantai-je en la serrant dans mes bras.
Mais tu saignes ? S'exclama-t-elle.
Je fronçai les sourcils, puis j'aperçus des taches de sang qui maculaient ma chemise.
Un souvenir laissé par la main entaillée de Billy. N'aie pas peur, ce n'est pas mon sang. Et si tu crois que ça me rassure? Et en plus, il est encore frais, remarqua-t-elle d'un ton suspicieux. Attendez, vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. Hier soir, à qui appartient cette robe? Me coupa Milo en soulevant la tunique de soie, tachée d'hémoglobine.
À Aurore, mais...
À Aurore? Ne me dis pas que tu as...
Non, ce n'est pas elle qui la portait, c'était une autre femme.
Ah, tu fréquentes une autre femme, s'exclama-t-il. C'est bon signe, ça. On la connaît?
Dans un sens, oui.
Carole et Milo échangèrent un regard médusé avant de demander en chœur « C'est qui ?»
Jetez un œil sur la terrasse, vous allez être surpris.
D'un même pas précipité, ils traversèrent le salon et passèrent une tête curieuse derrière la porte-fenêtre. Puis il y eut une dizaine de secondes de silence, jusqu'à ce que Milo finisse par constater « Il n'y a personne dehors, mon grand !» Étonné, je le rejoignis sur la terrasse, où soufflait une brise revigorante. La table et les chaises étaient renversées, les dalles jonchées de centaines de petits bouts de verre. Du café, de la compote de banane et du sirop d'érable tartinaient le sol, mais aucune trace de Billy.
L'armée a fait des essais nucléaires chez toi ?
Se renseigna Carole.
C'est vrai que c'est pire que Kaboul ici, enchaîna Milo.
Pour éviter la réverbération, je mis une main au-dessus de mon front et scrutai l'horizon.
La tempête de la veille avait redonné à la plage un côté sauvage. Les rouleaux d'écume qui déferlaient encore sur le sable avaient rejeté sur la grève quelques troncs d'arbres, des algues brunes, une vieille planche de surf et même une carcasse de vélo. Mais il fallait bien me rendre à l'évidence. Billy avait disparu.
Par réflexe professionnel, Carole s'était accroupie près de la vitre, examinant avec inquiétude les traces de sang qui commençaient à sécher sur le verre.
« Qu'est-ce qui s'est passé, Tom ? Tu t'es battu avec quelqu'un ?»«
Non, c'est juste que là, je crois vraiment que tu nous dois des explications, » me coupa à nouveau mon ami.
« Mes bougres de grande bourrique, tu les aurais déjà eues, tes explications, si tu me laissais finir mes phrases. »« Eh bien, termine-les alors. Qui a dévasté ta terrasse ? Et à qui appartient le sang sur cette robe ? Au pape ? Au Mahatma Gandhi ? À Marilyn Monroe ?»
À Billy Donnelly.
Billy Donnelly ? Mais c'est un personnage de tes romans.
Voilà.
Ça t'amuse de te foutre de moi ? Explosa Milo. Je me fais un sang d'encre pour toi. S'il le fallait, je t'aiderais à enterrer un cadavre au milieu de la nuit. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de me prendre pour un...
Carole s'était relevée, et du ton d'une mère qui gronde ses enfants, elle s'interposa entre nous, mimant les gestes d'un arbitre de boxe.
Time's up, les gars ! Bon, on arrête les blagues à deux sous, on s'assoit autour d'une table et on prend le temps de s'expliquer au calme, d'accord ?
Ainsi fut fait. Pendant plus d'un quart d'heure, sans omettre aucun détail, je leur racontai mon incroyable histoire, depuis cette étrange rencontre avec Billy, au beau milieu de la nuit, jusqu'à mon interrogatoire de ce matin qui avait fini par me convaincre de la réalité de son identité.
Donc, si je comprends bien, résuma Milo, l'une des héroïnes de ton roman est tombée d'une phrase mal imprimée directement dans ta maison. Comme elle était nue, elle a enfilé une robe appartenant à ton ex-copine, puis elle t'a préparé des pancakes à la banane pour ton petit-déj. Pour la remercier, tu l'as enfermée sur ta terrasse et, pendant que tu écoutais du Miles Davis, elle s'est entaillée les veines, mettant du sang un peu partout, avant de les recoller avec de la superglue spéciale céramique et porcelaine. Puis vous avez fumé le calumet de la paix en jouant au jeu de la vérité où elle t'a traité d'obsédé sexuel et toi de salope avant qu'elle ne prononce une formule magique pour disparaître au moment précis où nous sonnions à la porte. C'est bien ça ? « Laisse tomber, » dis-je. « J'étais certain que tu retournerais ça contre moi. »«
Juste une dernière question. Vous l'avez bourré avec quel tabac, votre calumet de la paix ?»«
N'en rajoute pas, » lui demanda Carole. Milo me dévisagea avec inquiétude.
« Il faut que tu retournes voir ta psy. »
« C'est hors de question, je me sens très bien. »«
Écoute, je sais que je suis responsable de notre débâcle financière. Je sais que je n'aurais pas dû te mettre la pression pour écrire ton prochain livre dans les délais, mais là, tu me fais peur, Tom. Tu es en train de perdre la raison. »«
Tu fais sans doute un burn-out, » tempéra Carole. « Une crise de surmenage professionnel.
Pendant 3 ans, tu n'as pas arrêté. Les nuits d'écriture, les rencontres avec les lecteurs, les conférences, les voyages pour les repérages et la promo. Personne n'aurait tenu le coup, Tom. » Ta séparation avec Aurore a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu as encore besoin de repos, c'est tout.
Arrêtez de me parler comme à un gosse.
Il faut que tu retournes voir ta psy, répéta Milo. Elle nous a parlé d'une cure de sommeil qui...
Comment ça, elle nous a parlé?
Vous avez appelé le docteur Schnabel sans me prévenir?
On est avec toi, Tom, pas contre toi, dit Milo pour me calmer.
Mais tu ne peux pas me lâcher les baskets 3 minutes. Tu ne peux pas parfois t'occuper de ta vie. Et pas toujours de la mienne.
Touché par cette répartie, Milo secoua la tête, ouvrit la bouche, hésita à ajouter quelque chose, mais son visage se ferma et il y renonça. À la place, il prit une Denil dans le paquet resté ouvert, puis sortit sur la plage pour la fumer en solitaire. Je restai seul avec Carole. À son tour, elle alluma une cigarette, en tira une bouffée puis me passa la clope, comme lorsque nous avions 10 ans. Et que nous nous cachions pour fumer derrière les palmiers faméliques de MacArthur Park. Considérant qu'elle n'était plus en service, elle défit son chignon, laissant ses cheveux d'ébène se déployer sur le bleu marine de son uniforme. La clarté de son regard tranchait sur ses mèches charbonneuses, et par certaines de ses expressions, son visage de femme rappelait l'adolescente qu'elle avait été. Le lien qui nous unissait allait au-delà de la sympathie ou de la tendresse. Ce n'était pas non plus une amitié ordinaire. C'était l'un de ces attachements inaltérables qui ne peuvent se forger que pendant l'enfance et qui vous engagent une vie durant, plus souvent pour le pire que pour le meilleur. Comme chaque fois que nous étions seuls tous les deux, le chaos de notre adolescence me revint dans la gueule avec la force d'un boomerang. Cet air invague qui était notre seul horizon, l'asphyxie de ce bourbier infect dont nous étions prisonniers, le souvenir déchirant de nos conversations d'après l'école sur le terrain de basket grillagé. Cette fois encore, j'eus l'impression très forte que nous avions toujours 12 ans, que les millions de livres que je vendais, les criminels qu'elle arrêtait faisaient partie d'un rôle que nous jouions tous les deux, mais qu'au fond, nous n'étions jamais réellement partis de là-bas. Après tout, ce n'était pas un hasard si aucun d'entre nous n'avait d'enfants. Nous étions trop occupés à combattre nos propres névroses pour avoir l'élan de transmettre la vie. De la Carole actuelle, je savais peu de choses. Ces derniers temps, nous nous étions moins vus, elle et moi. Et quand nous le faisions, nous évitions soigneusement de parler de l'essentiel. Peut-être parce que nous espérions naïvement que de ne pas évoquer le passé permettrait de le faire disparaître. Mais les choses n'étaient pas si simples. Pour oublier son enfance, Milo faisait le clown 24 heures sur 24. Moi, je noircissais des centaines de pages, je prenais des cocktails de médicaments et j'inhalais du crystal meth.
Je n'aime pas les grandes déclarations, Tom, commença-t-elle en triturant nerveusement une petite cuillère.
À présent que Milo n'était plus dans la pièce, son visage était triste et soucieux, débarrassé de la nécessité de « faire semblant ».
« Entre toi et moi, c'est à la vie et à la mort », poursuivit-elle. « Je donnerais un rein pour toi, voire les deux s'il le fallait.
Je ne t'en demande pas tant.
D'aussi loin que je me souvienne, c'est toujours toi qui trouvais les solutions. Aujourd'hui, ce serait à moi de le faire. Mais je suis incapable de t'aider. »
Ne te tracasse pas avec ça.
« Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Mais je voudrais juste que tu saches une chose. C'est grâce à toi que Milo et moi avons pu parcourir tout ce chemin. »
Je haussai les épaules. Je n'étais même plus certain que nous avions vraiment parcouru un chemin. Certes, nous habitions des endroits plus agréables, et la peur ne nous tiraillait plus le ventre comme autrefois, mais à vol d'oiseau, MacArthur Park n'était qu'à quelques kilomètres des lieux où nous vivions.
En tout cas, tous les matins, ma première pensée est toujours pour toi, Tom. Et si tu coules, on coulera avec toi. Si tu lâches prise, je crois que ma vie n'aura plus aucun sens.
J'ouvris la bouche pour lui dire d'arrêter de raconter des bêtises. Mais d'autres paroles s'en échappèrent.
Es-tu heureuse, Carole ? Elle me regarda, comme si j'avais prononcé une incongruité, tant il était entendu pour elle que la question de la survie avait définitivement remplacé la question du bonheur.
« Cette histoire de personnage de roman, » reprit-elle, « ça ne tient pas debout, tu es d'accord ?»«
Ça paraît tiré par les cheveux, » admis-je.
« Écoute, je ne sais pas quoi faire concrètement pour te soutenir, à part te renouveler mon amitié, mon affection. Alors cette idée de cure de sommeil, c'est peut-être quelque chose à tenter, non ?»
Je la contemplais avec tendresse, à la fois touchée par son attention et déterminée à éviter tout traitement. « De toute façon, je n'ai même plus de quoi la payer. » Elle balaya cet argument.
« Tu te souviens du jour où tu as reçu tes premiers droits d'auteur ? La somme était tellement énorme que tu as tenu à la partager avec moi. J'ai refusé, bien sûr, mais tu as quand même trouvé le moyen de me piquer mes coordonnées bancaires pour endosser le chèque à mon nom. Tu te rappelles ma tête lorsque j'ai reçu le relevé de ma banque avec un excédent de plus de 300 000 dollars ?»
À l'évocation de cet épisode, Carole retrouva un peu de gaieté et quelques étoiles scintillèrent dans ses yeux embués. Je ris, moi aussi, en me remémorant cette période heureuse où j'avais cru candidement que l'argent résoudrait tous nos problèmes. Pendant quelques secondes, la réalité se fit plus légère, mais cela ne dura pas, et il ne restait dans son regard que des larmes de détresse lorsqu'elle me demanda
« Accepte, s'il te plaît, cette cure, c'est moi qui te la paye. »
Son visage était redevenu celui de la petite fille torturée que j'avais connue dans mon enfance, et c'est pour l'apaiser que je lui promis de suivre ce traitement.